Bienvenue sur Radio Méga. Je crois que cette fois je ne ferai pas de vieux os. En effet, le web 1.0 me fait peur. Je prévois ma lampe pour vous éclairer le chemin obscur de la web hack machine du net.
C'est gentil, Lisa.
Et oui, à la saison, on trépane les grosses citrouilles. Voici l'heure d'invoquer d'outre-tombe nos amis. Daphony, Netscape, Atavista. Parce qu'effectivement, cette semaine, nous allons vous parler d'une époque ancienne de l'Internet d'avant.
You've got mail.
Oui, bonjour Emmy Man.
Bonjour Cécile, un petit coucou à Matt qui peut pas encore être là, mais on va bien arriver à lui faire écrire quelques sujets quand même.
Oui. Hein,
parce que ça nous manque aussi, les à quoi tu joues.
C'est ça. Mais tout de suite, nous allons effectivement passer à l'actualité.
Alors, Zalactu, qu'est-ce qu'on a à Zalactu? Alors, les podcasts d'Amiga Impact reprennent leur rythme de croisière. Après quelques absences le mois dernier à cause du rush de la rentrée, notre ami Batman met à profit son nouvel équipement pour nous conter chaque semaine toute l'actualité Amiga.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et une bonne demi-heure à chaque fois, c'est du boulot, on en sait quelque chose. Hein, donc bravo.
Oh que oui.
Ensuite, donc l'apparition des mémoires de John Perry Barlow. Donc, on vous avait annoncé son décès il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le cofondateur de l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui est un petit peu l'équivalent de la Quadrature du Net aux US, plus ou moins. C'est même beaucoup plus gros, mais et pas que ça, parce qu'il a été, il a eu plusieurs vies. Il venait juste de terminer en fait la rédaction de ses mémoires qui s'appelle donc Mother American Night. Avant de nous quitter, il y a quelques mois, donc ce livre est disponible aussi en livre audio également, pour l'instant uniquement en anglais.
En anglais. Un hors-série du canard enchaîné sur la vie privée. Tiens, ça m'intéresse.
Ouais, mais je l'ai amené, je l'ai dans mon sac.
Ah bien.
J'ai pas eu le temps de le lire encore. Il y a des contributions de la Quadrature, Framasoft, April, tout
wow.
Ça, que des copains, quoi.
Que des bonnes personnes, hein.
Mm.
Les meilleurs dedans. Plein de changements à la Quadrature.
Oui, le départ, alors enfin, plutôt son officialisation de Jeremy Zimmerman, qui est un des cofondateurs de la Quadrature. Mais bon, ça faisait déjà quelques années qu'il n'était plus très actif, qu'il y avait d'autres projets. Donc là, il a officialisé sa démission. Un tout nouveau bureau de transition suite à l'AG. Alors, on ne dira pas qui c'est, parce que du coup, ils veulent plutôt garder ça pour la préfecture et l'administratif et pas forcément afficher les fonctions du bureau, parce qu'ils estiment que ce n'est pas spécialement important. Enfin, je dis « on » parce que j'en fais partie de la Quadrature du coup, mais ça fait bizarre. ça fait toujours bizarre, hein, franchement. Mais du coup, voilà. Et puis, toujours plein de projets pour défendre nos libertés en ligne et hors ligne. Et bientôt, une campagne de dons. Donc, voilà, faites chauffer votre tirelire, ça va arriver. Et les plaintes contre les GAFAM qui avancent aussi.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, Frampic est de retour.
Et oui.
Ça nous avait manqué.
Ouais, on a appris ça il y a pas longtemps là. Donc, ils ont eu des petits soucis. Donc, ils expliquent sur le Framablog leurs soucis. En fait, c'est leur hébergeur qui n'arrêtait pas de les embêter pour dire il y a telle image, machin, il faut retirer parce que c'est soit de l'UP de porn, soit d'autres trucs. Et puis, en fait, l'hébergeur voulait qu'ils retirent dans l'heure, quoi. Et en fait, bon, Framasoft, c'est une petite asso, hein, vous savez, avec quelques personnes, donc ils sont pas toujours là pour supprimer les trucs.
Ça veut dire qu'il y a eu des images étranges qui se sont échangées sur le réseau.
et pas que des licornes. Hein. Mais bon, et du coup, leur hébergeur leur a mis un ultimatum. Il a dit, vous enlevez ça. Où on vous coupe, quoi. Donc ils sont été obligés d'arrêter le service, de le déplacer sur un autre hébergeur, etc. Bon.
Ouais.
Voilà. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui utilisaient Framapic comme CDN, donc en fait pour servir les images de leur site web, y compris des gens en .gouv.fr.
Ouais.
C'est bon. du coup, après, les sites en .gouv.fr, ils avaient que des captures d'écran, des messages disant que Framapic marchait pas. C'était un peu con.
Ça, c'est beau, ça.
C'est ballot. Framasoft, ils recrutent une chargée de communication et partenariat, donc c'est l'occasion de travailler pour la bonne cause, même si vous savez pas coder, ça peut...
Tu me l'as pas dit avant, ça.
Maintenant, tu sais.
Maintenant, je sais qu'ils recrutent, très bien.
En plus, c'est pas loin, c'est à Lyon.
Ah bah voilà. OpenBSD 6.4 est sorti.
Avec notamment plein de nouveaux pilotes, donc il n'y a pas que GNU Linux dans le libre.
Ah, et puis Magea 6.1 est disponible.
Oui, la distribution de GNU Linux, héritière de Mandriva, a donc une nouvelle version avec aussi plein de nouveautés.
Il y a aussi la campagne de financement pour le troisième volume de The Astari Estate and the Creative People.
Ouais, sur Indiegogo, donc donnez si vous voulez que ce livre soit imprimé.
Bien, nous faisons une toute petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après sur l'Internet d'avant.
D'avant. Time.
Ouais. Bon, c'était un petit clin d'œil à Back in Time de Belvis. Si vous vous rappelez, c'était la musique qu'il y avait dans Retour vers le futur.
Ouais. Donc, voilà. Vu qu'on va voyager dans le temps.
Hein. Voilà. Parce qu'effectivement, cette semaine, nous avons décidé de vous faire une rubrique nécrologique sur l'internet des années 90-2000. Vous l'avez peut-être tous remarqué, bientôt sonne l'heure de ressortir les squelettes d'Halloween. Cette fois, nous avons décidé de nous plonger notre main dans le passé. Et ne vous enfuyez pas, si la nécrologie reste un hobby de vieux, nous n'irons pas si loin, puisque nous irons effectivement juste 20 ans en arrière, quoi. Il fut un temps où les foyers des Français étaient, pour certains privilégiés, étaient équipés d'un Minitel. Puis un jour, et tandis que certains avaient leur ordinateur pour jouer, est venue aussi l'heure de se connecter. Et nous allons écouter effectivement un petit extrait de Thierry Lhermitte qui nous présente Internet dans les années 90.
Il y a 14 millions de Français aujourd'hui qui ont un Minitel chez eux, qui donc à l'origine on y trouve France Télécom. France Télécom démocratise l'Internet. C'est le gros titre de Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte est très branché sur Internet. Je vais peut-être vous amener voir comment ça se passe et comment vous savez vous occuper d'un heure et entrer en communication avec votre serveur.
Donc, est-ce que
vous...
Oui, toi, avec plaisir.
Par là que ça se passe.
Oui.
Voilà. Applaudissements.
L'extrait date de 96 quand même.
Hein. FCM, ouais. Qui veut dire ?
Ça veut dire France Cinéma Multimédia. Ouais. Alors, c'est la société qu'on a créée qui est un serveur du cinéma en France. Donc, il y a plein d'actualités, de bandes annonces, d'images, de sons, de textes, d'informations sur
le cinéma.
Sur le cinéma. Voilà. Alors, ça, c'est une page de FCM sur lequel, voilà, il y a les films qui actuellement. Showgirl, Le Maître des éléphants, Les Trois Frères, Les Inconnus, les nouveaux films.
C'est accessible par.
Dès qu'on a un ordinateur. Oui, le monde entier d'abord. Dès qu'on a un ordinateur. Voilà. Mais il n'y a pas que les petites photos comme ça. Il y a plein d'informations dessus. Si on va sur Les Inconnus, il y a d'autres photos, vous voyez, vous allez voir, qui se chargent. Voilà.
Qui se charge, ça prend le temps. Déjà,
à l'époque, c'était une vieille page HTML tout en gris.
On va regarder un petit peu ce qui peut se donner, par exemple. On a piloté cette semaine aussi pour voir la bande-annonce de Showgirls, pour voir que l'Internet, c'est un peu plus qu'un Minitel et que c'est un peu plus fort que ça. Mais je pense que Thierry aura un mot à nous dire après juste ces images.
Mais on n'a que 20 minutes d'émission pour
observer. T'es qu'une stripteaseuse. Je suis danseuse. C'était impressionnant. Là, il présentait un petit peu le truc. Ah, c'est assez intéressant, effectivement, de se rendre compte un peu à l'époque. C'était présenté à la télévision comme une nouveauté. Quelque chose qui en fait, l'extrait qu'on a écouté, en fait, date de 96. Mais alors, qu'est-ce que l'Internet ? Donc, moi, comme je vais aussi voir ce que me dit Wiki, Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. Ouais. C'est un réseau de réseaux à commutation de paquets. Sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes. Il y en avait 47 000 en 2014, par exemple. L'information est transmise par Internet grâce à un ensemble de standardisés de protocoles de transfert de données, comme le TCP/IP, et qui permet à des applications variées comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le peer-to-peer. Il disait peer-to-peer. Le World Wide Web, Internet a été popularisé avec l'apparition du web et sont confondus parfois par les publics non avertis. Alors effectivement, Internet, c'est beaucoup plus vieux que ça, puisqu'effectivement, déjà dans les années 60, ARPANET fit son apparition dans le domaine scientifique. Ainsi, les chercheurs trouvèrent au-delà de cet outil de communication, qui est de départ un dispositif à des fins militaires, ils l'utilisèrent pour relier les ordinateurs entre eux. On est bien loin de l'usage quotidien qui s'est démocratisé en France dans les années 90, avec l'avènement du web et du protocole TCP/IP. Donc, le protocole TCP/IP pour les néophytes.
C'est TCP, Transmission Control Protocol, et Internet Protocol.
Voilà, et qui n'a pas été inventé par Windows ?
Non, ça n'a pas été inventé par Microsoft. Alors, pour la petite histoire, à l'époque de Windows 3 et 3.1, tout ça, il n'y avait pas TCP/IP dans Windows. Il y avait une cinquantaine de protocoles réseau différents qui existaient à l'époque, hein, des protocoles de réseaux locaux, hein, qui étaient tous en concurrence. Il y avait tous les Novell et compagnie, mais il n'y avait pas TCP/IP. Et c'est une autre boîte qui a écrit WinSock Et c'est Microsoft qui l'a racheté. Après, ils ont dit on a inventé TCP/IP, mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Même pour Windows, c'est pas eux qui l'ont fait. Donc.
Oui. Et donc, les premières pages en HTML dans les années 90 ont fait leur apparition. Donc, effectivement, le langage HTML est un langage informatique qui permet de mettre en forme du contenu à l'aide de balises.
Et avec le protocole HTTP qui permet de transporter ces pages-là.
Bien.
Voilà, et donc il ne faut pas confondre Vincerf et Tim Berners-Lee. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont chacun un t-shirt. Je n'ai pas inventé Internet, et l'autre c'est Je n'ai pas inventé le web, pour être sûr qu'on ne les confonde pas tous les deux.
Ah oui, parce qu'effectivement, soyez bien rassurés à ce niveau-là, le web et Internet sont bien deux choses différentes. Effectivement, il faut se mettre dans la tête, par exemple, vous imaginez un iceberg. Ben, en fait, imaginez que le web, c'est juste le dessus, quoi.
Et puis c'est arrivé après, il y avait d'autres trucs. Avant, l'email, ça date d'avant, IRC, tout ça.
Bien sûr. Alors, Internet, dans les années 90, c'était quoi? Eh ben, on avait besoin d'un modem pour se connecter,
ouais,
et ça faisait ça.
Ah. Ah, c'est fait du bien. Ça berce.
Ah oui.
Ouais. Encore, c'est gentil, tu l'as pas mis à fond. Hein.
Ouais, je suis gentille.
Parce que à notre époque, ça pétait les tympans.
C'est vrai. Ah ouais, mais tu sais que même, j'ai vu sur un YouTube qu'il y avait même des musiques de relaxation avec le modem.
Ah, faut que je trouve ça, oui.
Alors voilà, déjà, effectivement, t'avais besoin d'un modem connecté à ton ordinateur pour pouvoir avoir Internet. Et puis à l'époque, nous avions des abonnements Internet et chaque minute, chaque seconde passée sur Internet était payante, comme le Minitel en fait, avec une tarification de jour et de nuit un petit peu moins chère. Si, ça existait. Et puis, il y avait un gros frein à l'usage de cet outil car à l'époque, chaque octet pesait déjà lourd et pesait déjà en temps de chargement.
Ouais.
C'est pour ça que le web restait light vis-à-vis d'un usage davantage texte, avec l'usage régulier de mail, de l'IRC, en mode texte. Le web est loin de son époque d'aujourd'hui. Effectivement, on a vu des choses extraordinaires arriver, comme « Waouh, je pouvais visiter le Louvre
wow. !»
C'était magnifique. Quand tu pouvais télécharger, en fait, tu téléchargeais l'image d'une œuvre qui était au Louvre, tu avais l'impression d'y être. C'était, à l'époque, énorme.
Mais ça prenait autant de temps de télécharger que d'y aller à pied, non?
Je sais pas, mais en termes de coûts,
ouais.
En termes de coûts financiers,
c'était
quand
un peu
tu...
pareil.
J'imagine que ça devait être aussi cher. Ouais. Alors, les usages de l'Internet des années 90. Alors, Internet, personnellement, moi, j'y ai touché quand j'étais au lycée. Et aussi au cybercafé, parce que j'avais encore le Minitel à la maison, mais j'avais pas de modem, j'avais pas de connexion Internet. Et à l'époque...
Sauf que le Minitel, c'est un modem, s'il y a un modem dedans. Mais
oui.
Mais il faut le câble et tout, puis il était lent, le modem du Minitel. Hein.
Le modem du Minitel, effectivement, était inférieur à 33 000 baud. J'imagine que c'était en 6
000 baud. C'est du 1200... Enfin, ça dépend des deux sens, mais ouais, c'est de 1200 ou 2400 baud. Donc,
ouais,
c'est...
alors imaginez bien que nous, à l'époque, le Minitel, c'était cette époque-là, c'était 12 000, c'est ça? 12 000 baud?
Ah, 1200.
1200
ouais,
et avec un modem, on pouvait atteindre, au meilleur des cas, 56 000, c'est ça?
Ouais, les derniers modems vraiment habituels, c'était oui, c'est les 56 000, donc 56 000 baud.
Mais en réalité, en général, on plafonnait à 33 000, je crois. 36 000.
Suivant la ligne et tout.
Et oui, parce qu'on utilisait les câbles RTC qui ont été abandonnés depuis.
Et c'était avant. C'est toujours les câbles qui sont utilisés par la DSL, sauf qu'avant, avant la DSL, on utilisait en fait les mêmes fréquences que la voix. C'est pour ça qu'on pouvait pas avoir le téléphone en même temps. On était obligé de raccrocher le téléphone et dès qu'il y a quelqu'un qui appelait, ça pétait la connexion. Il fallait se reconnecter et tout. Pourquoi tu m'as appelé? J'étais en train de télécharger un truc.
Ouais, et sans compter que si tu vivais chez tes parents, t'avais tes parents qui disaient raccroche Internet. Ça, c'était pas mal aussi. Alors à l'époque, effectivement, on avait des fournisseurs d'accès et notamment Aphony, qui en 95 avait créé son propre univers avec ses services qui étaient proposés qui s'appelait Ladybirds. Et pour les néophytes, ça revient à ne voir Internet que par d'une seule porte, parce qu'effectivement, il y avait des gens qui ne voyaient Internet que par Aphony, alors que nous, on savait très bien qu'il n'y avait pas que ça. C'est un peu comme aujourd'hui ceux qui regardent que Facebook.
Ouais, c'est ça, c'était un portail captif en fait. Il fallait carrément installer l'application du fournisseur et ils avaient carrément, même Wanadoo, ils avaient une version bidouillée d'Internet Explorer par exemple. Et il fallait installer le navigateur de Wanadoo qui était
avec
tout pourri.
Cacabou.
Alors si tu savais qu'il n'y en avait pas besoin, tu pouvais t'en passer, mais la plupart des gens étaient obligés de passer par ça, quoi.
Alors nous avions une multitude de serveurs, nous avions par exemple la possibilité d'échanger des messages. Si vous vous souvenez de Caramail, je rappellerai juste une anecdote que mon ami Alan Trio m'a fait remonter, comme quoi il avait trouvé une faille chez Caramail qui permettait de pirater les messageries des utilisateurs. Oui, bah les failles ça date pas d'hier en fait.
Non.
Et puis pour discuter nous avions l'IRC, l'Internet Relay Chat, qui était déjà bien actif. Et puis, pour les adorateurs de Bilou, il y avait Messenger, MSN.
MSN, il y avait ICQ aussi.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et nous avions aussi des newsgroups. Mais les newsgroups étaient aussi anciens comme l'IRC, qui ont été créés en 1979, associés à nos logiciels très souvent de mail, dans lesquels nous pouvions débattre, échanger et partager nos connaissances et les points de vue à travers des forums thématiques. Et puis ça, c'était bien longtemps avant tout ça. Nous avions aussi les forums de discussion, qui étaient accessibles par le web aussi. Mmh. Et par exemple, 4chan a fait son apparition qu'en 2003. Et on avait des pages perso. Et
ouais.
Oui. Et nous hébergions sur des serveurs Migal, Geocity, Tripod ou bien sur chez.com. Mmh. Et les blogs étaient pas vraiment disponibles encore avant que Skyrock arrive avec son... Sa petite patte et ses skyblogs, effectivement, mais en se remémorant cette époque, qui a encore un profil Manspace ? Et puis, si vous aviez besoin de vous renseigner sur le net, eh ben, il n'existait pas de Wikipédia.
Non.
Pour ça, si vous aviez besoin de connaissances, il vous suffisait d'acheter le CD de Encarta. Parce qu'effectivement, télécharger des données de recherche ça prenait énormément de temps. Alors effectivement, Amazon était déjà présent dans les années 2000. Et puis, LDLC, nos amis, étaient déjà présents en 1997. Ce qui ne les empêche pas non plus d'ouvrir encore des enseignes physiques en France. Alors je vais vous faire revenir, vous invoquer des noms du passé. Donc AltaVista, moteur de recherche en 95, Club Internet, Geocity, eBazaar, Jackie PC, Liberty Surf, Lycos, Napster, Voila.fr, Wanadoo, à la page altern.org, Caramail, chez.com, enfin voilà, des choses qui vous remémoreront des vieilles histoires du passé si vous y avez été. Donc. Alors presque tous sont morts, Caramail existe encore et a été racheté s'appelle maintenant GMX Caramail depuis 2009.
D'accord.
Et chez.com a été racheté par Free depuis 2013, comme quoi on peut encore héberger des choses sur chez.com.
Alors pour Geocities au moins, je sais qu'il y a des archives, il y en a qui ont repompé les pages juste avant qu'ils débranchent les serveurs. Et donc il y a beaucoup de contenu de Geocities qu'on peut arriver à retrouver. Mais c'est vrai que ça fait partie de choses qui effectivement ont disparu. Et pourtant, c'est notre passé, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi, que ça disparaisse comme ça.
Eh oui. Et puis Google, à l'époque, c'est ton ami. Bah oui. Quand tu faisais des recherches internet, tandis que certains utilisaient Lynx ou Cab sur Atari, Ibro sur Amiga, Netscape sur Mac, Internet Explorer ou Mozilla sur PC, tu avais une multitude de moteurs de recherche au choix. Tu avais déjà Yahoo, Excite, Infoseek, Echo, Hotbox, AltaVista, qui était réputé pour référencer des cracks et des différentes choses pirates. Et attention, il m'est arrivé d'écrire Hasta la Vista. Eh bien, le site internet relié à ce nom était tout à fait autre chose et pas du tout un moteur de recherche.
Ah bon ? Non.
Ah oui, comme la Maison Blanche aussi, whitehouse.org, n'était pas dédié aussi à un site gouvernemental. Depuis, ça a bien changé. Et oui, il fut un temps où tu as envoyé un labrador chercher tes informations.
Lycos, va chercher.
Et voilà, et t'avais Simone pour vendre tes objets aux enchères. À l'époque où Google était parmi d'autres moteurs de recherche, et à vrai dire, on le trouvait bien parce qu'il était sommaire. Et c'était bien une face cachée de ce moteur qui revend aujourd'hui, on le sait tous, des tas d'informations d'un autre.
Alors encore avant les moteurs de recherche, il y avait les annuaires, il y avait des sites où on rajoutait nous-mêmes de l'information.
Oui.
C'était avant Wikipédia, c'était déjà contributif, on pouvait dire « Ah, ce site, il est bien sur tel thème et tout », parce que les moteurs de recherche étaient déjà trop compliqués, quoi.
Et puis Internet, c'était bien avant parce que si l'Internet restait cantonné et enfermé dans un ordinateur, depuis l'avènement des connexions sur nos mobiles, Internet est partout. Internet, les objets connectés en sont une preuve vivante. Ce phénomène se transforme et trouve vie dans bien d'autres applications, amenant l'État maintenant à nous imposer désormais à tous quasiment ce passage obligé. Soi-disant, tout le monde va avoir un accès à... Même ouais. Dans les campagnes les plus reculées.
Ouais, hein. Faudrait qu'on en discute de ça. Hein.
Oui, il y a des lois qui doivent justement passer, qui ouais. Doivent effectivement nous permettre d'avoir tous Internet.
Ouais.
Voilà, c'était notre petit sujet. Nous avons remonté le temps.
Ouais, alors à propos de rétro, j'ai vu que Maliki sort le 3e tome de son roman intitulé « Des milliers de murmures ». Et justement, ambiance vintage garantie, sans téléphone portable, rien que de bons agendas papier, des baladeurs auto-reverse et internet qui pointe tout juste le bout de son modem 28K. Donc si vous voulez vous replonger là-dedans, bah, n'hésitez pas.
Et puis une petite pause musicale, bien de l'époque aussi, parce que voilà, on aimait bien.
Planter Windows.
Savez-vous planter Windows ? À la mode. Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou?
Allez, ouais, come on, crachons le système, ouais.
Savez-vous planter Windows à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion, Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou? Savez-vous planter Windows à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou?
Oui.
Do you know to crash Windows at the fashion,
oui.
Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou?
Allez ouais, come on, crachons le système, ouais.
La 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 la, ça a planté. La 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 la, si le système est planté.
Savez-vous planter Windows à la mode? Savez-vous planter Windows à la mode de Bilou? Do you know to crash Windows at the fashion of fashion? Do you know to crash Windows at the fashion of Bilou?
Planté.
Ouais, c'est tout planté.
Ouais. Alors pour la petite histoire, c'est un module, hein. Ce n'est pas MP3 comme certains voudraient le dire, c'est parce que j'ai retrouvé ce vieux module sur YouTube et certains disaient la voix elle est pas synchronisée avec la musique. Mais attendez les gars, c'était une époque des années 90 et on n'avait pas tous les outils d'aujourd'hui.
On n'avait pas l'autotune tout ça.
Et non. Eh bien, nous allons passer à l'agenda.
J'allais le dire. Alors, on rappelle que l'agenda, hein, c'est celui de la semaine passée, si vous écoutez le samedi, parce qu'il y a des rediffusions, enfin, si on ne s'est pas gouré, hein, on va voir. Donc, on a le contribatelier à Villeurbanne. Donc, les contribateliers, ils ont fait une pause en septembre, mais ils reprennent. Donc, c'est le moment pour lâcher tous les talents sur la contribution aux cultures et logiciels libres, sans forcément savoir coder.
Ah ouais,
même si on sait coder aussi, mais si on parle une langue étrangère, même si on est lu dans l'info, si on adore le design, vous pouvez participer. Donc
ça se passe le 17 octobre.
Voilà, à partir de 19h, au 33 avenue Jean Capel à Villeurbanne. Voilà. On vous mettra tous les liens sur notre blog www.a.fr.
Magie numérique, exorciser son téléphone portable.
Oui, alors en fait, c'est toute une semaine pour questionner notre rapport magique et irrationnel aux nouvelles technologies.
Ah, ça.
Voilà, donc il y a 7 événements, puis il y en a plusieurs la semaine suivante. Voilà, essayer de comprendre les téléphones portables, courir après les barres de réseau et les 1% de batterie, tout ça.
Qui n'a pas couru ça ? Ça se passe le 18 octobre ?
De 14h à 16h à la bibliothèque municipale Jean Massé, aux 2 rue d'Omer, à Lyon. Et puis encore un truc à Lyon, Gaming Gones 2018, c'est
oui.
G2L2 qui nous fait ça avec la dose.net et l'Arcaneum qui nous propose la seconde édition du Gaming Gone qui promet d'être fantastique. Donc le Gaming Gone, c'est 500 mètres carrés dédiés à 100% à l'animation vidéoludique.
Enfin, ils vont nous faire de l'ombre avec la micro-alchimie. Hein.
Ah ouais, bah là, du coup, l'entrée journée samedi ou dimanche, c'est 3€, le week-end, c'est 5€. C'est les 20 et 21 octobre à Supinfo Lyon, 16 rue Jean Desparmet, je ne sais pas comment ça se dit.
Oui, c'est Desparmet.
Voilà, à Lyon dans le 8e.
Et puis, il y a la microalchimie, qui c'est le week-end prochain aussi,
voilà,
à Clérieux.
Voilà, les 20 et 21 octobre. Il y aura peut-être une place si vous pointez encore, mais c'est pas sûr. Voilà, voilà.
Astrologique, je vais frotter la boule et que titu ! Otaku ! Mickey, il connaît pas.
6 admin, mot de passe pour août. Oui, enfin là, c'est plutôt le mot de passe pour octobre, mais...
Technophile, this is the beat, this is bait, is technotronic.
Ouais, mais c'est encore un maître belle, hein, j'ai pas compris. Maker, maker, ma création. Ouais, d'accord.
Nerds, c'est comme des Kinder, les Kinder sur batterie ou les Kinder surprise.
Codeur, Java, c'est de plus en plus lourd, j'ai plus de place disque là. Ouais, c'est bien ma veine tout ça.
Eh bien, sur ce, merci de nous avoir écoutés, les auditeurs de Radio Méga. La semaine prochaine, pour nous retrouver pour parler de l'intelligence artificielle ou l'interfacilité intelligente.
Ah ben, on verra.
Ah, à voir. Bye à bientôt. Bye bye.